I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand on vous dit sorcière, vous pensez à une vieille au nez crochu avec une verrue dessus? Ou à une hippie un peu sexy qui jette des sorts avec ses orgasmes? À l'heure où Pénélope Bagieu réadapte en bande dessinée les sorcières de Roald Dahl et que le livre Sorcière de Mona Chollet n'est plus une œuvre obscure féministe mais un best-seller, nous voulions nous interroger sur la chatte et ses pouvoirs magiques, le mythe de la femme à pouvoir. La femme magique en général se range dans deux catégories, la maléfique et la bienveillante, mais toujours autour de la chatte.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux Origines du Monde, l'émission du Poste Général. Aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, trois autour de la table. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission.
Ce qu'on va tenter de faire pendant le podcast que vous allez écouter, c'est de recentrer le débat autour de cet objet merveilleux qui est l'origine du monde et l'origine des choses, la chatte.
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 Chatte. Chatte. Chatte.
Chatte. Et voilà.
C'est bon ?
On va se présenter.
Georges.
Par souci d'anonymat et pour plus de fun, nous avions décidé de prendre chacune un nom de garçon.
Aujourd'hui, je serai Sergius Pocus.
C'est magnifique.
N'est-ce pas ?
J'adore.
C'est incroyable. Moi, toujours dans l'origine des sorts, je serai Henri Kiki, Choupiki, Boop.
Oh putain. Allez, je vous mets au défi de le répéter maintenant.
Surprise,
c'est la roue libre.
Putain, mais moi je suis naze, je voulais juste rendre un hommage, donc je serai Georges Méliès, parce que magie et tout ça, c'est un peu joli, quoi.
C'est beau.
Mais bravo.
On comprend la rêve.
Donc attendons-nous à ce superbe sujet qui va débuter par qui de nous ?
C'est moi.
Oh.
C'est moi, c'est Henri, et je voudrais vous parler d'un truc qui m'intrigue beaucoup, mais parce que j'ai cette passion de mettre les choses en tension et d'essayer de trouver des contradictions partout. Et je voudrais vous parler de la différenciation qu'on a tendance à faire dans tous nos imaginaires entre la sorcière et la bonne fée. C'est un truc qui m'a frappée récemment, il y a La Reine des Neiges 2 qui est sortie, qui, une fois de plus, a été rentable avant même sa sortie, suite à la vente d'objets dérivés, enfin bref. Donc énorme best-seller de Disney, qui montre bien qu'en fait, cette figure de la sorcière qui a été surexploitée comme celle de la bonne fée dans tous les films de Disney de notre enfance, aujourd'hui est beaucoup plus floue. L'héroïne est aussi la sorcière, la méchante, celle qui a un pouvoir maléfique en elle, mais qui, d'une façon ou d'une autre, arrive à le mettre à sa sauce et en tout cas en faire quelque chose de bénéfique et positif. Aujourd'hui, la limite entre le maléfice et la bénédiction est hyper floue. Donc là où, par exemple, dans La Belle au bois dormant, on avait les trois petites bonnes fées, toutes pleines de bienveillance, qui se penchaient au-dessus du landau et qui étaient là « Tu seras belle et tu chanteras bien et tu seras très gentille avec les animaux de la forêt. »
Petite princesse, moi, je vais te faire don de la beauté.
On est sur un pouvoir très domestiqué quand même.
Voilà. Versus maléfice, genre ouais, ok, mais tu vas quand même dormir pendant 100 ans. Allez, bye bitches. Il y a quand même un truc qui se passe où aujourd'hui c'est plus aussi dichotomisé. Dichotomique, ou différenciée.
Mais en fait, la Reine des Neiges, elle est maléfique à la base, cette histoire.
En tout cas, elle a un pouvoir qui est hyper néfaste. Ouais. Enfin, tu sais, elle est cachée, on lui met des gants pour qu'elle puisse pas l'utiliser, oui, parce qu'elle a failli tuer sa sœur. Enfin bref,
c'est un pouvoir d'Arcos. Moi je connais pas.
Ah, alors si tu me lances, je peux te raconter le conte d'Anderson, qui à la base est vraiment une sorcière qui, elle, est vraiment maléfique et qui brise des miroirs pour mettre des éclats dans les yeux des enfants qui du coup voient le monde en noir, etc.
Oh my god.
Hyper cool. Allez le lire, c'est trop bien. C'est pas très long et vraiment ça vaut le coup.
C'est basé là-dessus, le Walt Disney tout kiki là, tout mignon.
Bah comme pratiquement d'habitude.
Ouais, mais toujours très très adapté. En on a déjà fait cette conversation sur les adaptations de Disney.
On vous renvoie à notre podcast sur les contes, ou je sais plus sur quoi, mais on en a parlé.
Je crois qu'on en a parlé.
Cherchez, écoutez tout, faites pas chier.
Et dans le Disney, en fait, c'est une gamine qui a des pouvoirs de jeter le froid par ses doigts. Okay. Et qui, un jour, en jouant avec sa sœur dans la grande salle du château, fait une montagne un peu trop haute. Sa petite sœur se pète la gueule et genre crève à moitié dans les montagnes de neige qu'elle a fait dans le truc. Mmh. Et du coup, à partir de là, elle est punie par ses parents. Enfin, pas punie, mais en tout cas, pour contrôler son pouvoir.
Mise en quarantaine.
On lui met des gants, elle sort plus de trop de chez elle et tout. Et puis, elle finit par devenir reine parce que ses parents meurent, parce qu'on est dans le Disney. Et elle se retrouve à devoir gérer ses pouvoirs. Et en fait, elle finit par plus supporter cette pression de devoir se cacher et plus être qui elle est et s'enfuir dans la montagne.
Vous connaissez la chanson, genre vraiment, voilà.
C'est vraiment dégueulasse.
Qui est vraiment...
C'est dégueulasse
de mettre ça dans la tête des gens.
Ouais. Mais qui est vraiment cette hymne à la libération. Je veux plus être ce qu'on veut que je sois. Je serai ce que je suis vraiment. Je vais laisser mon pouvoir s'exprimer. Bla, bla, bla. Let it go, can't hold it back anymore. Il y a des sales mecs, grosso modo, dans ce film, mais il n'y a pas de vrai méchant. Le seul vrai méchant avec des vrais pouvoirs qui pourrait vraiment faire énormément de mal, c'est Elsa, donc l'héroïne
elle-même. Quoi, finalement.
Voilà, exactement.
Apprendre à se connaître, tout ça.
Exactement. Ce qui brouille, du coup, énormément la frontière entre le bon, le mauvais, qui est bon et qui est mauvais. Est-ce que finalement, on n'est pas tous un peu
sorcières et bonnes fées en même temps.
Exactement. Une chose est sûre, par contre, c'est que le pouvoir, et particulièrement le pouvoir des femmes, a toujours été hyper condamné dans cette société. La Reine des Neiges en est un exemple. C'en est évidemment pas le seul, et on va revenir un petit peu rapidement sur ces représentations. Donc on avait toujours ces représentations, le pouvoir versus l'innocence, parce qu'en général, une femme de pouvoir, pour se contrebalancer et montrer que c'est dangereux qu'elle ait du pouvoir, a toujours une vierge pure à ses côtés qui, elle, est tout en innocence et qui est
docile.
Est extrêmement docile, évidemment.
Je vous invite à lire Les Trois Mousquetaires.
Alors ça, bisous Constance Bonacieux.
Et Milady.
Bref, mais ça marche dans quasiment tous les classiques de la littérature. C'est la mère versus la prostituée de Barthes, enfin, genre très, ouais, de façon très 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 claire.
Et le plus vieil exemple qu'on en a, du coup, c'est Lilith versus Ève.
Exactement, j'allais en venir là. C'est donc cette ambiguïté énorme entre la première femme, qui est considérée comme Ève en général dans la façon dont on en parle, mais qui en fait était Lilith, qui était l'épouse de Lucifer avant qu'il ne soit déchu.
C'était pas la première femme d'Adam et après elle est...
Si, t'as raison.
Si, c'était la première femme d'Adam.
La première femme d'Adam qui...
Qui n'est pas née de sa cuisse, mais qui a été créée autrement.
Alors c'était pas la cuisse, Adam, c'était la côte.
De sa côte, ouais. En gros, il n'est pas né d'un morceau de viande de
monsieur.
En gros,
elle a été créée, je crois, à peu près de la même façon qu'Adam, en mode genre...
C'est ça. Sauf qu'elle avait sa volonté propre et qu'elle ne voulait pas être soumise à la volonté de Dieu et d'Adam, c'est-à-dire être un vaisseau de reproduction. Et elle avait, si je ne dis pas n'importe quoi, Henri, la volonté de prendre son pied. Quoi.
En fait, de pouvoir coucher pour le plaisir.
Voilà.
De ne pas être là seulement comme effectivement un vaisseau de reproduction, comme tu le disais, et de coucher uniquement pour pouvoir se reproduire et continuer la race humaine qui se multipliera comme des grains de sable pour des générations, etc.
Et ça, c'est mal.
C'est tellement mal qu'elle a été punie. Donc, on l'a envoyée en enfer, à côté du seul autre mec qui existait à l'époque et qui avait un peu fait de la de mer, donc Lucifer, qui lui s'était opposé à Dieu alors qu'il était le plus bel ange. Et ils se retrouvent tous les deux à régner sur les enfers. Et donc, cette dichotomie entre Lilith, qui du coup est une dépravée, qui elle connaît les plaisirs du corps intrinsèquement et qui les demande, et Ève, qui a besoin de croquer dans une pomme pour en arriver à la connaissance et la conscience de son propre corps.
Ouais, d'être tentée, ouais.
tout ça par effectivement la tentation d'un être externe est une vraie dichotomie. Il y a des tableaux, là encore, on vous les mettra sur Insta parce que ça vaut carrément le coup,
ouais,
mais qui montrent justement la différence entre l'élite et Ève, ou même ce rapport, parce qu'évidemment, comme à chaque fois qu'on monte de femmes et qu'en plus il y a une ambiguïté comme ça et que ça parle de charnel, c'est extrêmement sexualisé et érotisé dans, dans les représentations qu'on en fait.
Ève, elle a trop de la chance, à chaque fois qu'elle est toute nue, il y a des petites feuilles de lierre et qui tombent sur sa chatte.
Ça fait
et
pas
des,
ça pour toi
Et ses cheveux
c'est
qui cachent
après, il faut ramasser.
Ouais, moi, chaque soir, quand je me déshabille, j'ai des petites ronces comme ça qui poussent autour de moi pour cacher ma pudeur. C'est hyper sympa.
C'est magique.
J'ai l'impression d'être dans Botticelli. C'est cool. C'est bon. Des petits anges qui arrivent avec des draps et tout. C'est chouette.
Pour cacher ta pudeur.
Cette différence entre pudeur et sexualité libérée continue évidemment après. Dans la mythologie grecque, on en a moult exemples. Entre une Circé, par exemple. Circé, goddesse absolue. Enfin, vraiment,
la sorcière par essence.
Ouais. Qui, elle, arrive à entretenir cette ambiguïté parce qu'elle est à la fois complètement mauvaise, puisque son kiff, c'est de transformer les hommes en porcs, voire de se les faire manger les uns aux autres. Enfin, bref.
Mauvaise ? Je suis pas sûre. Parfois, ça donne envie un peu quand même.
C'est ça, balance ton porc.
Waouh. Bouffe ton pote. Bouffe ton pote, balance ton porc.
Mais d'un autre côté, qui donne quand même le foyer à Ulysse, le...
Qui reçoit, qui, elle, qui ouais, l'accueille. Ouais.
Elle l'accueille
bref,
de ouf.
Qui accueille enfin, Ulysse, grave, qui... Oui, c'est ça. Et qui
l'enferme un petit peu quand même.
Elle l'enferme un petit peu au début, elle l'empêche de partir, il essaie de récupérer ses potes. Enfin bref, tout ça est très très compliqué.
Toujours est-il qu'ils entretiennent une relation qui, évidemment, est sexuelle et charnelle.
Et ils kiffent sa mère, en plus.
Et ils kiffent sa mère, parce que...
bisous, Pénélope.
Elle connaît les bons sorts.
Me changer en sorcière. M'envoler sur mon manche à balai.
Évidemment, il fallait une sorcière pour arriver à convaincre Ulysse de tromper Pénélope. Enfin, revenons là-dessus. Il faut que ce soit une femme de peu de vertu. C'est aussi le cas des parques qui se partagent leur œil et leurs dents pour pouvoir parler et voir à tour de rôle.
Oui, voilà, des femmes très puissantes.
Est-ce
finalement
que je suis en train de confondre?
Au pire, on parle pas des parques, c'est pas grave.
Sinon, on parle pas des parcs, mais on peut parler par contre de méduses.
On n'a pas le parc.
On n'a pas le parc.
C'est le cas aussi dans les représentations de sorcières mythologiques de méduses, dont on ne peut même pas croiser le regard.
Alors j'ai vu qu'en fait, elle était tellement belle qu'on l'a transformée en chose ignoble et irregardable.
Bah, tu vois, c'est pareil. C'est encore une fois, tu transformes la beauté de la femme en quelque chose de maléfique. Tu vois, il y a une vraie objectification.
Ouais. À chaque fois qu'on parle de femme magique dans la mythologie, je pense à Pygmalion, par exemple.
Ouais, bien sûr.
C'est la cause de sa perte, en fait. Et je parle de Pygmalion pour être sympa, parce que finalement, ils ont la relation.
Si
on peut parler de tous les viols de Zeus aussi.
Ah oui, c'est sympa.
Ah oui, ça, c'est sympa.
En toute détente.
Le mec, il y va, genre, même en animal, en tout ce que tu veux. Genre, il a genre pas de limite. C'est le premier MeToo. Il est horrible.
Il est atroce.
Mais non, je suis un petit chamignon, regarde.
Et je suis un énorme bœuf. Ah non,
Zeus, je t'ai reconnu, Zeus.
On est en train de divaguer complètement et de complètement s'éloigner de notre sujet. Toujours est-il que ces figures de la sorcière se reproduisent au fur et à mesure du temps. On le retrouve dans la littérature, on en parlait justement avec les Trois Mousquetaires, la figure de Milady comme la figure de Constance Bonacieux. Mais aujourd'hui encore, on se rend compte que en général, pour une femme forte, il faut la contrebalancer un peu. C'est comme ça qu'on retrouve des modèles en fait hyper différents de Kim Kardashian, hyper sensuelle, très affirmée dans sa sexualité, qui commence sa carrière d'ailleurs par une sextape, donc qui vraiment se fait connaître par cet aspect très charnel et sensuel.
Versus
de l'autre côté, une Taylor Swift par exemple, qui elle joue beaucoup plus la carte de l'innocence, de l'amour sensuel et dévoué, enfin pas sensuel justement, mais dévoué, complètement naïf et mignonne et pure.
Et texane par-dessus le marché.
En plus de ça, comme Matthew.
Comme si les texanes pouvaient être pures, tu sais. N'importe quoi.
Bon.
N'importe quoi.
Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la figure de la sorcière est en train d'être dédramatisée de façon radicale. Grâce à l'ouvrage de Mona Chollet que je vous invite à lire, elle a des réflexions extrêmement puissantes sur le fait que justement, ces figures de sorcières, ces figures qui étaient maléfiées dans les récits mais aussi dans les sociétés, parce que la chasse aux sorcières, on a beau en rigoler aujourd'hui, enfin c'est quelque chose qui a vraiment existé.
C'est pas du tout une blague en fait. Ça a été
c'est
un
pas
peu
du tout une blague. Ces figures de la sorcière représentent souvent en fait les femmes qui étaient à l'écart, les femmes qui n'étaient pas comme les autres, et surtout les femmes qui ne voulaient pas d'enfants et qui ne s'inscrivaient pas dans ce système de reproduction comme on avait tendance à le faire.
Des femmes souvent d'ailleurs qui étaient savantes et indépendantes.
Exactement.
Et savantes, proches de la nature par essence, donc herboristes ou quoi ou qu'est-ce, et qui soupçonnaient en fait de faire alliance avec le diable pour obtenir ses pouvoirs. Puisqu'une femme ne pouvait pas avoir toutes ses connaissances et ses pouvoirs en étant seule.
En étant seule et surtout en ne s'appuyant pas sur l'église.
De l'église ou d'un homme.
Voilà, donc je vous invite à écouter la mise en musique d'un super poème de Baudelaire. Et je vous parlerai à la fin de cette émission, pour conclure tout ça, des figures du tarot. Parce que bon, après tout, est-ce qu'on serait pas toutes un petit peu sorcières au fond de nous? Est-ce qu'on n'aurait pas notre magie perso à exprimer comme on peut le faire?
Oh, toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Oh, Satan, prends pitié de ma longue misère.
Et sur ce, je vais laisser la parole à mon cher Serge.
Sergius Pocus. Pour vous servicius.
Pour vous servicius. De la suite de mon histoire et des sorcières modernes.
Tu n'as jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime?
Bah non, je regrette.
C'est moi la plus grande, la plus merveilleuse sorcière. Regarde mon garçon, d'un coup de baguette. Si nous avons les bimes, je dessèche une fleur. J'aime semer le macabre et la terreur.
Oh, ça c'est terrible.
Merci mon petit.
Tout ça est facile pour moi, car je suis la magnifique, merveilleuse Madame Mime.
Je peux me faire encore plus laide que je ne suis.
Oh, ça doit pas être facile, ça. Pardon.
Oui, moi j'ai envie de parler des sorcières modernes et du coup j'avais envie de parler de Mona Chollet et tout ça. Et puis en fait je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver des nanas qui sont vraiment des sorcières ou qui se prennent pour des sorcières? Parce qu'on va essayer d'être un petit peu pas biaisé sur ce podcast. Mais du coup j'ai cherché un peu des trucs un peu chelous de nanas qui disent oui, bonjour madame, je suis rédactrice en chef et sorcière. Et c'est d'ailleurs le cas de la première nana sur laquelle je suis tombée qui s'appelle Christine Corvette, qui a le don de jeter des sorts de la manière la plus étrange possible, puisqu'elle le fait à travers ses orgasmes. Voilà.
J'ai essayé hier soir.
D'accord.
Avant-hier.
Ça a marché ?
Je sais pas encore.
Cette Nana Corvette, elle est rédactrice en chef d'un blog engagé, féministe, qui s'appelle The Slutist.
J'adore ce blason.
Que je vous invite d'ailleurs à aller regarder rapidement. Enfin, c'est en anglais, et puis c'est très 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 militant, très engagé, mais c'est quand même hyper marrant. Elle a des rubriques du genre Politicunt. Et donc, cette nana-là raconte qu'elle a réussi à... En fait, dans une interview dans je ne sais quel grand journal, elle raconte qu'elle a réussi... Non, en fait, elle dit ça à genre The Guardian, tu vois. Elle dit genre, j'ai réussi dans la vie parce que... Donc, en on, elle te dit, j'ai réussi parce que force d'acharnement, de travail, de connexion, etc. Et en off, elle te dit, j'ai réussi parce que je pratique la magie de l'orgasme. Et donc, là, de l'intervieweur, de lui dire, mais dites-moi en plus, je suis pendu à vos lèvres, wink wink. Et là, la nana explique qu'elle pratique la magie sexuelle et que cela consiste à se servir de l'énergie, souvent de l'énergie de l'orgasme, pour produire une manifestation. Donc en fait, la magie, quoi qu'il arrive, c'est toujours soit tu produis, soit tu canalises une source d'énergie et tu la diriges avec ta volonté vers un objectif. Et là, elle dit, les orgasmes produisent cette énergie et à force de volonté, de rituel, tu arrives à obtenir ce que tu veux de l'univers. Donc en fait, elle dit, moi je mets ma petite musique érotique préférée, apparemment c'est du métal glam, je sais pas
ouais,
quoi.
Glam metal, ouais.
Ouais, j'étais genre, j'adore.
Ok, je ne connais pas
c'est
ce truc.
Génial. Donc elle met sa petite musique, elle allume une bougie de préférence qui symbolise son objectif. Et elle dégaine son god en cristal Et elle se masturbe avec la ferme intention, la volonté d'obtenir quelque chose de l'univers. Et lorsqu'elle a un orgasme, elle dirige l'énergie libérée par cet orgasme vers son objectif.
C'est stylé. Après, voilà. Elle dit quand même vraiment c'est que c'est pas pour avoir une voiture ou un nouveau taf. Enfin, si, un taf peut-être, mais pas une voiture ou posséder.
Non, c'est pas pour des biens matériels.
Non, ouais, c'est plus c'est pour des biens matériels.
C'est amour, sexe, obtenir réussite, ton objectif. Pouvoir.
Voilà, c'est ça. Exactement. C'est comme les catégories de 36-15 voyance. Tu sais, genre, c'est les.
Attends, il y a.
Choisissez la carte.
Voilà, donc moi j'ai trouvé ça incroyable. Après, je suis allée voir les godes en cristal, ça coûte un peu cher, donc peut-être utiliser, je sais pas, des œufs de yoni en cristal, ça peut marcher peut-être. Tu les gardes toute la journée, ça fait un peu genre en mode homéopathie versus genre médicament shot, tu vois. Et voilà, donc c'est hyper drôle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une pratique du tout. Unique, quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nanas sur Internet qui en parlaient, qui disaient oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas question d'accroître son sexe à pile ou ses compétences de sexe ou sa libido, je sais pas quoi. C'est de la magie. On réalise des volontés, on exploite l'énergie sexuelle pour faire des résultats très réels, etc., etc.
C'est trop bien. Voilà.
Je vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, de vous masturber avec des trucs en cristal. Et puis,
ou pas, non, t'es obligé d'avoir ça?
Bah, je sais pas, moi je suis le mode d'emploi, peut-être qu'on peut essayer comme ça sans.
Ouais, mais en tout cas, de dédier l'énergie de vos orgasmes à quelque chose qui vous dépasse.
C'est ça, c'est faites génial. Une requête à l'univers lorsque vous avez un orgasme. Essayez de rester concentré 5 minutes et de le faire. Voilà. Voilà, et du coup, si on parle de sorcières modernes, évidemment, il faut absolument qu'on parle de la pop culture et de ce regain de vitalité de l'image de la sorcière dans ne serait-ce que les films et les séries, quoi. Ça soit Harry Potter avec Hermione, qui est cette espèce de nerd qui devient en fait la meuf la plus bonasse
De badass bitch. Mais comme moi, ma chouchoute, c'était Tonks, qui était incroyable, qui arrivait à changer de gueule tout le temps et tout, elle était ouf. Luna Lovegood, bébé d'amour, qui est capable de tout faire sur tout.
Oui, mais la quintessence, ça reste Hermione, quoi.
Oui, parce qu'on en sait plus sur elle que sur n'importe qui d'autre, mais à part Ginny Weasley, toutes les meufs de ce bouquin sont hyper géniales.
Ginny, elle est pas mal. Non, Cho, elle sert à rien, il faut quand même le dire.
Cho, c'est l'éveil sexuel de Harry, c'est toujours ça de prix.
Pardon.
Oh, sorry. Voilà.
Mais bon, on a tous grandi avec Charmed, par exemple.
Oui.
Genre, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut faire une incise et mettre le générique de Charmed?
C'était pas très trilogie du samedi soir, mais c'est vrai que ça fait un petit truc, ouais.
What?
Tu sais quoi d'autre le samedi soir, en fait?
Ouh.
Image de la... Elle était
non,
sur Chatroulette.
Non, t'avais 3 ans, calme-nous.
Elle était sur Chatroulette. Non, ça existait à l'époque.
Je regardais pas la télé le soir.
En termes d'image de la femme forte et tout, de genre la sisterhood, genre au premier sens du terme, genre il y a une sœur qui meurt, on en retrouve une. Tu le savais pas, t'as 35 ans, mais t'as une autre sœur qui arrive. Enfin, genre un truc de ouf. Elles ont tous des pouvoirs. Elles sauvent le monde à chaque saison, parfois même 2 fois par saison. Elles se tapent des mecs, c'est des démons, mais en fait, c'est elles qui les maîtrisent. Il y en a un, elle se tape un ange, l'autre, elle se tape un démon et tout. T'es là, genre, je suis dans tous les côtés, manichéen n'existe pas, je suis du bien, je suis du mal, je suis la femme forte. C'est trop cool, tu vois. Et c'est un peu ce qu'ils ont repris, parce qu'on en a quand même eu des gratinés quand on était môme, entre la Sabrina avec sa poupée, vous vous rappelez, Salem, là, le chat.
C'est son chat.
Il était atroce, c'est la marionnette. Oui,
c'était clairement une marionnette, genre, ça se voyait trop. Oui. C'était le mec des guignols, il faisait ça, le samedi, tu sais, genre. Donc on a eu ça, et puis maintenant, on a une Sabrina sur Netflix qui est vachement plus. Vachement plus coquine.
Qui pose des vraies questions. Et puis, en fait, on est parti du registre de la comédie au registre du drame quand on parle de Sabrina et donc des sorcières et donc des pouvoirs et donc du pouvoir de la femme. Et ça, c'est hyper cool.
Ouais. La sorcière est prise au sérieux.
Exactement.
Tu vois, genre, si tu vois ma sorcière bien-aimée avant, bonjour pour la prise au sérieux. Quoi.
Bonjour, je fais le ménage et la cuisine et puis quand mon nez bouge, genre, tout se range normalement. Enfin, tu vois,
je peux pas trop faire des sorts sans bouger mon nez mignonnement, quoi. Tu vois, faut pas trop déconner, quoi.
Alors que là, Sabrina, c'est la fille du diable. Bisous.
Désolé pour les spoilers. C'est ça.
Allez, coucou.
Tellement stylé.
Putain, on va mettre un gros bip.
Et voilà. Et donc, pour finir cette magnifique chronique sur les sorcières modernes, j'avais envie de parler d'un truc que je ne connaissais pas. Shame on me. Des Witchblock. Witchblock Panam.
Et le feu!
Des Witches de Portland, en fait, les Initial Witches. En gros, le Witchblock de Panam, c'est un groupe de femmes et de queer qui se revendiquent féministes, qui sont assez radicales, et qui se disent, attendez, parce que j'ai noté, parce qu'il y en a une tripotée. Donc, féministes, anarchistes, antiracistes, anticapitalistes, antifascistes, pour les droits des travailleurs du sexe et des personnes LGBT. C'est un groupe qu'on retrouve souvent dans les manifestations, qui sont anonymes, donc elles sont cachées, souvent déguisées en sorcières au sens vraiment littéral du terme, avec des petites capuches pointues, quoi, et qui donnent un espace de parole à des communautés qui ne veulent pas prendre la parole de manière mixte, qui refusent les hommes cisgenres, qui veulent vraiment donner de l'espace médiatique à certaines personnes qui sont à qui on refuse de parler. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est hyper intéressant, mais qui a créé ça? Elles viennent d'où, ces nanas-là? Et en fait, ça vient du Women...
Ok, je vais le refaire.
Ça vient du Women International Terrorist Conspiracy from Hell.
Wow. J'adore. Hyper marrant. Hyper intense.
C'est ce groupe de femmes qui a été créé à Portland dans les années 60, qui a disparu puis qui a été recréé en 2016 et qui endosse la figure de sorcière pour deux raisons en fait très simples. Elles veulent donner la parole à tous ceux qui ont déjà été mis au banc de la société par les hommes cisgenres.
Donc là je sors un mot compte double au Scrabble. Hétéro cis patriarcal. Ding 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 ding. J'adore. J'ai gagné.
Elles sont proches des sorcières parce qu'elles sont rejetées de la société et elles sont proches des sorcières parce que c'est une image, comme le disait Henri, qui est de plus en plus floue et qui permet à tout le monde de s'y identifier, quel que soit le physique, l'âge, la place dans la société, les croyances, etc. etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant.
Ouais, c'est cool.
C'est d'ailleurs ces nanas-là qui ont jeté des sorts à Trump ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans les années 60, les witches de Portland, elles ont leur première action en tant que femme, c'était de jeter un sort sur la bourse de Wall Street. Mmh. Et en fait, ça a marché juste parce que les gens ont eu peur. Donc le cours des actions a baissé.
Ah, c'est trop bien.
C'est trop cool comme histoire.
La puissance invaincue des femmes, genre, comme dit Mona Chollet, c'est incroyable.
Voilà, donc pour moi c'est sûr, les sorcières existent. Il y a de la magie dans l'air, que ce soit parce que les gens y croient ou que ce soit parce qu'il y a des vrais pouvoirs. On ne sait pas. Je vous laisse faire votre avis, les auditeurs et auditrices.
Bienvenue sur 3615 Magie. Rituel, cérémonie, sort, recouvrez votre énergie sexuelle grâce à nos conseils. Vous avez une question? Nous vous écoutons. Rappel, il est conseillé de ne pas pratiquer à la légère les cérémonies dont il est question, au risque de perdre tout simplement la raison, ou bien de tomber sous l'emprise de forces impossibles à contrôler.
Allô, bonjour. Alors, j'ai entendu parler de magie sexuelle. Ça m'intéresse, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît?
La magie sexuelle existe depuis des temps immémoriaux et consiste à utiliser des énergies pour arriver à nos fins. F-I-N-S et F-A-I-M-S. La vraie magie sexuelle est la canalisation naturelle de nos forces latentes pour les rendre actives, tout en restant en harmonie avec la nature et le divin. Le terme magie sexuelle fait également penser à l'écrivain Aleister Crowley, le plus célèbre des mages sexuels, qui préconisait lui une foule de pratiques dégénérées plus ou moins perverses. Découvrez la magie sexuelle avec 3615 Magie, car il est urgent, inévitable et indispensable de nous émanciper de ce cercle vicieux, de l'accouplement vulgaire et de pénétrer consciemment dans la sphère glorieuse de l'équilibre magnétique.
Oui, bonjour. Je suis folle amoureuse d'un garçon qui ne m'aime pas. Puis-je lui jeter un sort?
Bonjour. Un sort qui a pour but d'encourager quelqu'un à tomber amoureux de vous devra être fait un vendredi soir pendant la lune croissante. Accessoires: 12 roses rouges, une bougie rose, verte ou rouge, une photographie de la personne ou un morceau de papier avec son prénom, un plateau, une aiguille. Placez la photographie au milieu du plateau et disposez les roses autour. Vous graverez alors le nom et le prénom de la personne désirée sur la bougie. Prenez ensuite la bougie dans vos mains et prononcez les mots suivants. Bougie, je te nomme. Dites le nom de la personne.
Patrick.
Placez ensuite la bougie sur la photographie de manière à ne pas la cacher, mais en conservant un contact entre les deux. Répétez l'incantation suivante. Tant que brûlera la bougie.
Choisissez pas une bougie trop grande.
Ça va être un peu long.
Putain, t'imagines, tu prends un cierge, t'es niqué. En même temps, il faut graver le nom de la personne dessus et tout. Enfin, ouais,
c'est jouable.
Concentrez-vous bien et faites preuve d'une grande puissance visualisatrice. Patrick, j'attendrai ton cœur comme fond cette bougie. car au moment même où cette cire coule, ton amour s'embrase pour moi.
Patrick, j'attendris ton cœur comme fond cette bougie, car au moment même où cette cire coule, alors ton amour s'embrase pour moi.
Patrick, j'attendrai ton cœur comme fond cette bougie, car au même moment où cette cire coule, alors ton amour s'embrasse pour moi.
Laissez la bougie se consommer entièrement. Réunissez les roses, attachez-les ensemble et suspendez-les la tête en bas pour les faire sécher. Ramassez ensuite la photographie ainsi que la cire refroidie et conservez le tout secrètement jusqu'à ce que le sort ait fonctionné.
Bonjour, bonjour. Alors, personne ne me croit vraiment, mais je sens les esprits, quoi. Je suis déjà rentrée en contact avec eux et depuis longtemps, je me demande s'il est possible d'avoir des relations sexuelles avec eux.
L'accouplement non physique, aussi appelé spectrophilie. Souvent, cela est considéré comme une agression sexuelle.
J'ai lu des témoignages, donc là j'essaie de le faire en mode cool, mais en fait j'arrive pas tellement. C'est
non,
bizarre.
Non, mais attends, ouais, enfin, on sent.
Voilà, donc c'est arrivé à plusieurs meufs. Ouais. En fait, un témoignage d'une meuf qui était chez elle et qui sentait un mec qui rôdait et tout, elle le voyait précisément, c'était un homme de 40 ans, etc., etc.
Elle savait déjà que c'était un spectre ?
Bah, elle le sentait, quoi.
Ok. Elle le voyait
tu pas,
pas
en
vrai,
fait.
Donc, elle le voit pas, mais elle le percevait de façon hyper
exactement.
Claire.
Exactement. Ok. Et en fait, elle a commencé à sentir des trucs, genre des espèces de fourmillements, des trucs et tout ça. Puis à sentir, au bout de quelques pratiques, quoi, même ses lèvres toucher les siennes, enfin, des choses comme ça.
Oh.
Elle dit qu'elle a jamais senti la pénétration en tant que telle, mais que c'était assez chelou. Et que c'était un peu comme si elle était défoncée, quoi. Et le lendemain, elle se sentait vraiment mal, quoi, un peu agressée et tout pour la première fois.
Ah
et puis
ouais,
après, de plus en plus, en fait, elle a réussi à gérer le bail, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'il y avait un vrai boy physique dans sa chambre, avec elle, le spectre ne venait pas.
Ok.
Voilà, donc c'est possible. Vous pouvez regarder Paranormal Activity 2. Il y a vraiment une scène où il se passe ça, et c'est assez intéressant, on voit toute la meuf qui raconte ce genre de truc. Je pensais pas.
C'est courant, quoi.
Bah, il y a
pas
mal de
personnes. T'as pas le choix, t'es obligé d'accepter d'avoir un rapport sexuel avec un spectre.
Bah, je pense que tu peux te débattre, mais ça a l'air un peu compliqué. Mais violé par un... Enfin, par quelqu'un de non physique, c'est assez étrange.
Oh my god.
Non, mais t'imagines
so
même le processus de healing, ouais. Enfin, de cicatrisation et tout après ça. Enfin, j'ose même pas imaginer.
Voilà. Bonjour pour porter plainte.
Non, mais c'est ça. Non, mais vraiment.
Il est mort il y a 2000 ans, madame, il y a prescription.
Ouais, mais t'imagines si vraiment c'est un trauma pour toi, c'est hardcore.
C'était 3615 magie.
Eh ben, dis donc, on en a appris des trucs.
Putain, mais grave, j'ai
bon, et du coup, je fais un petit exercice, mais en fait, il y a vraiment des sites de ouf où tu peux trouver des vrais rituels, des vrais sorts à jeter. En vrai, j'ai hyper envie d'essayer, c'est vachement marrant.
Alors, en conclusion, on va demander à Henri de nous raconter les cartes du tarot.
Les sept figures principales féminines du tarot de Marseille.
Cool.
Et revenir un peu sur leur signification et leur pouvoir, justement, de femme. La première qu'on peut citer, c'est la papesse, qui est associée à la réceptivité. C'est une figure qui est silencieuse, qui est dans l'écoute, qui écoute beaucoup son intuition. Elle peut avoir une tendance aussi au renfermement et au secret. En tout cas, c'est une carte qui encourage à la réceptivité, la souplesse d'esprit, bien sûr, et donc hyper forte. Elle est assez contrebalancée par l'impératrice, qui est notre deuxième carte, qui parle, elle, d'activité et d'expression, qui est vraiment dans quelque chose de très actif, de très proactif, allant même jusqu'à l'agressivité quelquefois. Mais enfin, Dieu sait si on a besoin de fucking mad bitches qui sont capables d'ouvrir leur gueule et
bien
de poser leurs couilles et de dire ce qu'elles veulent dire au moment où elles veulent dire. C'est le cas aussi à la justice, notre troisième femme du tarot, qui, elle, est effectivement dans la tempérance, la juste mesure, mais qui parfois en arrive même à des stades d'intransigeance, voire d'intolérance dans cette justice-là.
La force est une figure féminine, n'en déplaise aux haters.
Mais la faiblesse aussi, non ?
Pas dans les cartes du tarot.
Non, tarot.
Enfin, c'est pas une...
Ça n'existe pas, quoi.
Ouais.
La force, c'est une femme qui est sauvage, énergique, qui en veut, qui a un instant hyper ravageur en fait sur son passage. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, contrairement à notre première carte de la papesse, est quelque chose qui est en général plus attribué aux hommes. Donc on est ravis de la recevoir dans notre camp. Elle est évidemment contrebalancée par la tempérance qui incarne la jeune fille dont on parlait au début de cet épisode, sur l'innocence, la légèreté.
La pureté.
Exactement. Elle a pas trop les pieds sur terre, tu comprends. La Manic Pixie Dream Girl, en quelque sorte.
Mais elle
n'a
pas non plus les jambes en l'air.
De toute évidence.
Qu'est-ce que c'est beau, ça.
On peut parler de l'étoile, qui est la femme guérisseuse, donc la femme de pouvoir par excellence, celle qui est capable de raviver les morts et de guérir les vivants. Elle peut être un peu taxée de naïveté de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'harmoniser le monde qui l'entoure.
C'est moi, ça. C'est tout moi.
Bah, elle rigole même pas.
Non mais genre j'avais trop
bah ça. Non, je rigole pas.
Non, tu n'es pas l'étoile de nos vies. Non.
J'ai pas dit des vôtres.
Non, de l'univers.
Bah si, ouais, justement.
Et enfin, et ce sera la dernière, mais Dieu sait si on a bien fait de la garder pour la fin. Le monde. Le monde est une femme dans le tarot de Marseille.
Ah, comme Gaïa.
Exactement. Ouais. Et c'est la femme réalisée, la femme accomplie, celle qui a réussi à harmoniser toutes ses énergies, à trouver son équilibre. Donc finalement, c'est ça qu'on
ça,
vous
c'est
souhaite.
Pas moi.
C'est ça qu'on vous souhaite à la fin de cette épisode.
C'est ça qu'on gardera en tête, n'est-ce pas ?
À devenir une femme monde, une femme qui marche sur ce qui ne va pas, mais arrive à trouver de la douceur là où elle le veut.
Non, mais déjà, on peut créer la vie. Donc, si déjà, on arrive à organiser un peu la nôtre, je pense qu'on aura toutes les cartes en main.
Oh, allez.
C'était la blague de la fin.
C'est les origines du monde. Pour le poste général, on est ravis d'avoir passé ce petit moment de sorcellerie et de magie avec vous. Et on vous dit à très vite.
À très vite.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés.
No uterus. No opinion.
Surpris, étonné, abasourdi.
Mais quelle est donc cette radio?
Cette radio, ma petite, c'est le poste général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.